VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, 4 réfugiés ivoiriens pro-Gbagbo, dont l'ex-ministre de la Défense, Kader Bertin, sont maintenant de retour au pays natal. Ils sont arrivés jeudi soir à Abidjan en provenance du Ghana. Le retour des réfugiés ivoiriens est un enjeu majeur pour la réconciliation nationale et l'une des priorités du président Alassane Ouattara plus de 5 ans après la fin de la crise post-électorale de 2010-2011. D'après le HCR, plus des 2/3 des 300 000 Ivoiriens ayant fui leur pays pendant ou après le conflit sont maintenant rentrés chez eux. Il reste encore notamment 20 000 réfugiés au Libéria, 7 000 en Guinée et 11 000 exilés pro-Gbagbo au Ghana voisin. Nigeria, les leaders de la région du Delta du Niger doivent aider à pacifier leur territoire, a fait savoir le président nigérian Muhammadu Buhari. Les précisions de Michel Joseph.
La multiplication des attaques par des militants réclamant une plus grande part des revenus pétroliers a fait chuter la production pétrolière nigériane à son niveau le plus bas des dernières années. Recevant jeudi à Abuja une délégation de leaders du Delta du Niger, le président Buhari les a appelés à œuvrer de concert avec les autres responsables pour pacifier la région. Le chef de l'État a demandé le plus de renseignements possible sur la situation. Nous entendons reconstruire ce pays. Il a connu beaucoup de dommages, a-t-il déclaré, exhortant les leaders du Delta du Niger à dire à leurs administrés d'être patients. La semaine dernière, des sources au ministère nigérian du pétrole ont fait état de la signature d'un cessez-le-feu avec le groupe militant des Vengeurs du Delta, mais peu de temps après, ces derniers ont dit ne pas se souvenir d'avoir paraphé un tel accord. Dans l'espoir de favoriser le dialogue avec les militants, le gouvernement nigérian a annoncé début juin une réduction des opérations militaires dans le delta du Niger.
Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a fait hier le point sur l'avancée des enquêtes sur les attaques terroristes qui ont frappé Ouagadougou, la capitale burkinabé, le 15 janvier dernier. À la suite des interpellations effectuées, 10 suspects sérieux sont entre les mains de la gendarmerie et 3 des 10 présentent un intérêt commun avec les attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Depuis les attaques terroristes qui ont frappé la capitale burkinabé en janvier dernier et qui ont fait une 30aine de morts, les burkinabés se demandaient où en est l'enquête. Ce jeudi, le ministre de la Sécurité a levé un coin de voile. On écoute le ministre Simon Compaoré.
10 personnes ont été retenues, dont 3 présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capuchino, de Grand Bassam, de même que pour les attaques de Oursi en août 2015.
Parmi les suspects sérieux arrêtés, il y a 3 femmes, a assuré le colonel Serge Alain Ouedraogo. Il est le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie et coordonnateur des investigations.
Par rapport aux 3 dames, il y avait une voiture V8 qui a été beaucoup utilisée dans les opérations à la fois à Grand Bassam et à Capuchino, et qui servait à transporter les djihadistes mais également le matériel. Et le chauffeur principal donc, de ce véhicule a été identifié et c'est sa sœur qui a été interpellée au Burkina. Maintenant, les 2 autres femmes, il y a une qui est la femme d'un des grands suspects qui a été interpellé. Et dans l'interpellation, sa sœur était également présente, donc ça fait 3 femmes.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Burkina Faso, toujours, le parquet militaire va étendre la contre-expertise ADN aux 12 autres victimes dans l'affaire Thomas Sankara. Et ce, afin d'étoffer le dossier et éviter un vice de procédure. C'est ce qu'a annoncé jeudi Maître Beniwende Sankara, l'avocat de la famille Sankara. Les résultats de ces tests ADN réalisés en France indiquaient que les ADN n'étaient pas détectables et ne permettaient donc pas d'identifier à coup sûr les victimes. La contre-expertise, dont les résultats pourront être disponibles dans quelques semaines, sera réalisée à Santiago, en Espagne.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, Congo-Kinshasa, l'abbé Apollinaire Malumalu, organisateur des premières élections libres en RDC depuis l'indépendance, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi ici aux États-Unis où il était soigné. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui son évêque, mais Monseigneur Melchisedek Sikouli, dans un communiqué transmis à l'AFP. L'abbé Malumalu était absent de la scène publique depuis des mois avant sa démission le 10 octobre 2015 pour raison de santé. Au Congo-Brazzaville, le premier secrétaire de l'UPADS, la principale formation de l'opposition, Pascal Tsatsi Mabiala, réclame la libération des prisonniers politiques avant de parler de quelconque dialogue avec le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. M. Tsatsi Mabiala a aussi profité de sa première sortie médiatique hier depuis les dernières joutes post-électorales pour assurer ses propres militants que l'UPADS n'avait conclu aucun accord secret avec le PCT, le parti au pouvoir. Le compte-rendu de notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Après de longues semaines de silence, Pascal Tsatsi Mabiala est revenu au devant de la scène politique. Il demande un dialogue avec le pouvoir pour assainir le climat politique.
Nous ne pouvons pas en même temps parler de dialogue, de trêve, si en même temps en nous, il n'y a pas l'idée d'élargir les amis, les frères, les camarades qui sont aujourd'hui embastillés, certains dans les commissariats, d'autres à la DGST et d'autres encore à la maison d'arrêt, quelquefois sans jugement. Bien sûr, implicitement, nous demandons s'il y a un dialogue. C'est pour que ces camarades soient mis en liberté. Il n'y a aucun doute de notre part qu'ils le seront si le dialogue est convoqué. Comment pourrait-on convoquer un dialogue avec les gens qui sont en prison? Je crois que si notre message est entendu, il va de soi que ces camarades recouvrent la liberté pour venir assister au dialogue. Du point de vue du droit, ce n'est pas à nous de juger. Et il faut que le politique prenne le dessus du judiciaire.
Pour le premier secrétaire de l'UPADS, accusé d'avoir vendu le parti de l'ancien président Pascal Issouba au PCT, il n'y a jamais eu d'accord avec ce parti au pouvoir.
Nous n'avons pas d'accord avec le PCT pour gouverner ensemble, pour nous répartir la richesse. Il n'y en a pas du tout. Mais nous avons pris acte, ça a donné l'apaisement.
Pascal Tsatsi Mabiala a profité de cet échange avec les journalistes pour rassurer ses propres militants dont le comportement a entre-temps été très hostile à son égard. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VO Afrique.
Au Tchad, les 8 jeunes gens accusés d'avoir violé la lycéenne Zoura et d'avoir une vidéo de leur crime sur les réseaux sociaux ont été condamnés jeudi à des peines de prison. L'un est coupé d'un an de travaux forcés et les 7 autres, y compris Tidjani Miss, qui est en cavale, à 10 ans de la même peine. Les condamnés sont des fils de dignitaires tchadiens et certains au Tchad avaient craint qu'ils ne soient pas jugés. Timothée Donagmaya a recueilli la réaction du père de Zoura, l'homme politique Mahamat Brahim Yesko.
Après plusieurs critiques dont les Tchadiens ont critiqué la justice tchadienne, en soi disant qu'ils ne font pas leur travail, ce sont les enfants des superpuissants qui vont fuir le pays, ainsi de suite. Mais quand même, la justice tchadienne a fait son travail. Maintenant, il reste à donner le dommage d'intérêt de ma fille. Mes deux enfants qui sont morts à Fayal-Arjo et à N'Djamena doivent être dédommagés. Les malades et les blessés doivent être soignés par le gouvernement. Et ainsi, des personnes qui ont perdu des centaines de millions dans des marchés incendies doivent être dédommagées. J'attends ça patiemment de la part du gouvernement tchadien.
Certains des violeurs ont été condamnés à 10 ans de travaux forcés. Que pensez-vous de cette sentence?
C'est les peines de leurs actes que l'on vit, les actes que l'on commis à condamner parce que le gouvernement tchadien déjà a donné l'indépendance à la justice tchadienne de faire son travail. Donc la justice tchadienne a fait son travail et c'est une bonne chose.
Mais à propos de l'indépendance de la justice tchadienne, les magistrats tchadiens eux-mêmes font état de pression sur eux.
Oui, tout le monde a fait pression, l'État tchadien, les sociétés civiles, les étudiants, tout le monde a fait des pressions et la justice a pris acte.
Votre fille n'a pas assisté au procès, vous non plus, pourquoi?
Non, ils ne nous ont pas appelés, ils ne nous ont pas associés.
Mais est-ce que c'est normal ça?
Non, mais ils nous ont pas appelé, qu'est-ce qu'ils nous ont pas associé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ni moi, ni les membres de la famille, ni les avocats, il n'y a personne. Ils ont rendu leur verdict. Maintenant, on va courir vers la cour correctionnelle pour demander les dommages et intérêts de ma fille.
Selon vous, quel sera l'impact de cette affaire Zoura au Tchad?
Ah, maintenant, ça commence à donner raison à la justice tchadienne et les autres. Ça donne déjà peur aux autres de perdre déjà des actes parce qu'ils en ont commis plusieurs. Et maintenant, je crois que c'est le dernier. C'est un exemple que ma fille a donné volontairement et puis ça peut sauver les autres filles tchadiennes. Et même en Afrique et en monde entier.
Mais vous pensez que d'autres filles auront le courage de dénoncer des exactions comme votre fille l'a fait?
Exactement. Désormais, personne ne peut garder ça. Parce qu'après Zoura, tout le monde a dénoncé. Il y en a presque 7-8 plaintes en ce moment.
L'homme politique tchadien Mahamat Brahim Yesko, père de la lycéenne Zoura, joint à N'Djamena. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.